Bonjour à tous et à toutes, que Dieu soit béni. C'est une joie d'être dans ce lieu, de retrouver plusieurs frères et sœurs que je connais, bien sûr, de retrouver votre pasteur et son épouse, le beau-père, le papa de l'épouse, je l'ai tenu dans mes bras. Ça remonte à des années, cela, hein. Je l'ai porté sur mon vélo également. Et quand je vois que les générations passent, mais que les générations sont attachées au Seigneur, pour moi c'est une joie immense que Dieu soit béni. De toute façon, il n'y a que ça de vrai, être avec le Seigneur. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous et découvrir deux passages que vous connaissez. L'un sera dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et maintenant, dans le livre des Actes, au chapitre 27, le livre des Actes, chapitre 27, voilà ce que dit la parole de Dieu. Au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. » Deux versets plus loin. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses, au verset 28. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte d'heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Amen. J'aimerais, pendant quelques instants, voir avec vous ce que sont les épreuves et comment les traverser. J'oserais faire un sondage. Qui n'a pas traversé d'épreuves au milieu de nous? Levez votre main. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vie sans épreuve. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Ça n'existe pas. Et si quelqu'un veut se donner à Jésus, se convertir, pour ne pas avoir d'épreuve, il n'a rien compris. Parce que la Bible nous dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous passerons. C'est quelque chose de logique. Mais par contre, il y a des promesses, il y a des bénédictions. Alors, j'ai relevé un détail, vous allez comprendre dans quelques instants. De peur de heurter contre les rochers, ils ont jeté les 4 ancres du bateau dans la poupe. J'ai eu l'occasion de prendre le bateau plusieurs fois, Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique. Et personnellement, même en regardant par le passé, je n'ai jamais vu 4 ancres. Il y en a 2. Mais je me suis dit, s'il y a 4 ancres là, le Seigneur ne met pas des détails dans la parole, comme ça pour garniture, pas du tout. Alors, je trouve qu'au travers de ces 4 ancres, il y a 4 points que je voudrais découvrir au sein de l'épreuve, quelle soit. Le premier point, la première ancre est celle-ci. Dieu permet l'épreuve. Quand je dis « il permet l'épreuve », il faut savoir que l'épreuve, eh bien, nous pouvons la voir par nous-mêmes. Je me souviens d'une brave chrétienne, je vous dirai pas où c'est pas dans le Tarn-et-Garonne, mais quelque part, elle me disait « Moi, j'ai l'art de me mettre dans les difficultés. » Et connaissant sa vie, je peux vous dire que c'était vrai. Alors à chaque fois, bien sûr, elle demandait l'aide du Seigneur, elle appelait le pasteur, soit moi ou quelqu'un d'autre, et c'était elle qui s'était mise dans l'épreuve. Et Dieu est bon. Dieu est passant. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Donc, on peut se mettre dans l'épreuve soi-même. Je dirais, Satan lui-même peut nous éprouver. Souvenez-vous de Job. C'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. D'ailleurs, tout de suite, j'y reviendrai certainement. Mais quand quelqu'un passe par l'épreuve, ne jugeons jamais. J'ai bien dit, jamais. C'est facile de juger. C'est facile de dire, oui, mais il l'a cherché. Non. Et je vous montrerai tout à l'heure, c'est pas toujours ce qu'on a cherché, et Dieu le permet. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi de parler d'elle, mais ma femme a eu cancer au poumon, elle n'a jamais fumé de sa vie, n'a jamais bu, on a une vie saine, comme tous les chrétiens. Alors, comment ça se fait? Nous y répondrons dans quelques instants. Ne jugeons pas. J'ouvre une autre parenthèse avec le couple Fontaine, Laure et Michael. Nous avons travaillé un certain temps ensemble, et je les en remercie, parmi les prostituées. Je ne les ai jamais entendues, ni l'un ni l'autre, juger les prostituées. Puis je les ai entendues les aimer, leur apporter la parole, partager leurs expériences. Et plusieurs sont venus à l'église, que Dieu soit béni. On n'est pas là pour juger, on est là pour témoigner, prier. Alors, la souffrance, l'épreuve, on peut la voir également par les autres qui nous entourent, parce que nous vivons au milieu d'une société, nous sommes tellement différents, nous avons affaire à des gens qui sont contre Dieu, contre les chrétiens, contre l'Église, etc. Enfin, peu importe d'où vient l'épreuve, Dieu la permet. Je pense, admettons, à Marthe et Marie, qui envoie des messagers auprès de Jésus en lui disant « Celui que tu aimes, Lazare, ton ami, il est gravement malade. » Que fait Jésus? Il reste sur place. Moi, ma nature, autrefois maintenant, je commence à vieillir. Enfin, je suis déjà un vieux. Mais autrefois, ma nature, serais monté dans la voiture et j'aurais foncé pour aller voir la personne et prier. Jésus ne s'est pas déplacé. Et entre-temps, Lazare meurt. Quelle épreuve! Au bout de 4 jours, Jésus arrive. Ben, il serait temps, il est déjà au cimetière, il est enterré, il sent déjà. Mais s'il est vrai que Jésus est arrivé en retard pour une guérison, il est arrivé à temps pour une résurrection. Et parce que il a permis cette épreuve dans le foyer où vivaient ses 2 sœurs et leur frère, il a permis une résurrection et la Bible nous dit beaucoup de Juifs crurent à cause de la résurrection de Lazare. Quand nous passons par l'épreuve, et nous y passons tous, j'y suis passé, j'y passerai encore certainement, et vous aussi, il y a une chose qui est certaine. Souvent nous nous posons la question, pourquoi ? Et nous écrivons pourquoi en un mot. Quelle est la cause? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ou alors pourquoi? On peut mettre la faute aux autres. C'est pas pourquoi en un mot que nous devons nous poser la question. C'est pourquoi en 2 mots. Pour quelle raison? Pour quel but? Seigneur, tu permets que je passe par l'épreuve? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est plus la même chose. Autrement dit, quand il nous arrivera de passer, de traverser l'épreuve, ne posons pas la question « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» parce que le Saint-Esprit nous le dirait. Mais Seigneur, si tu as quelque chose à faire, tu vas me le révéler et me le montrer. Alors, la première raison, la première ancre qui est là, quand nous passons par l'épreuve, Dieu l'a permis. Et il a permis que Paul traverse l'épreuve du naufrage avec les autres. La deuxième ancre, elle me fait penser à ceci. Quand il est monté dans le bateau, c'était une véritable croisière. Il était dans le bateau en tant que prisonnier à cause de sa foi. Il y avait d'autres prisonniers, des soldats, les marins. Et puis le navire s'arrêtait, faisait étape. On permettait à Paul de descendre, il visitait les églises, il remontait, et puis il allait plus loin et il recommençait. C'était une croisière gratuite au compte des Césars. Mais c'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu avait autre chose. J'aimerais que nous nous souvenions. La deuxième encre, nous sommes à l'école de Dieu. Alors, ce que je vais dire, peut-être n'est plus court maintenant, parce que les choses ont changé, évolué, mais du temps où j'étais à l'école, eh bien, on venait en classe, c'est pas nous qui décidions de quel cours nous allions faire, suivre ou autre, on s'asseyait, voilà, tout était programmé, nous, on n'avait qu'à travailler. C'était comme ça. Je sais pas si c'est encore comme ça, enfin, peu m'importe. C'est lui qui nous enseigne. Lui, il reprenait courage, Paul, quand il s'arrêtait, et puis il remontait dans le navire, etc. Tandis que là, Dieu va permettre qu'il y ait un bouleversement. Et une tempête se lève. Ils n'ont pas vu le jour, ni la nuit, les étoiles, ni le soleil, rien, ni la lune, pendant plusieurs jours. Ils avaient même perdu tout espoir d'être sauvés. Et ils vont échouer sur une île qu'ils ne connaissent pas. Et entre-temps, Paul avait prié. Ils étaient tous apeurés, ils avaient déchargé le navire, la cargaison avait été jetée à l'eau, ils avaient perdu tout espoir. Et l'apôtre Paul dit, ne craignez rien. Un ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Dites-moi, vous avez donné votre vie à Jésus? Qui a donné sa vie à Jésus au milieu de nous? N'ayez pas honte de lever la main. Voilà. Donc vous appartenez à qui? Nous sommes d'accord? Vous appartenez au pasteur? Non. Pasteur ancien? Pas du tout. Vous appartenez à Christ. Vous appartenez à Dieu. Et comme Paul pouvait dire, le Dieu à qui j'appartiens. Il a envoyé son ange. Oh, je ne vais pas parler des anges. On sait que ce sont des esprits qui exercent un ministère en faveur de ceux qui héritent et qui doivent hériter le salut. Mais il avait confiance. Je traverse l'épreuve, mais le Dieu à qui j'appartiens est là. Et comme disait David, ma vie est dans ses mains. Et ça, c'est important de le réaliser. C'est pas des paroles. C'est une réalité. C'est ce qui motive ma foi. Et nous devons nous souvenir que le Seigneur est là avec nous et il a quelque chose à nous enseigner. C'est souvent au travers des épreuves que Dieu se manifeste et que nous pouvons voir sa gloire. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous, qui a connu le Seigneur, et je vais vous dire comment. Il y a des années de cela, à Montauban, nous avions un frère qui est maintenant avec le Seigneur. Et en se rendant un lundi à son travail, en Solex, on voyait que ça remonte à des années, cela, hein, le Solex, c'est dépassé de mode. Et puis, il a un accident en allant à son travail. Pourtant, le dimanche, il était là, je le connaissais bien. Il louait le Seigneur. C'est un homme de confiance, il était même ancien, etc. Et il a un accident. Et il est transporté à l'hôpital. Je comprends pas, moi. Un chrétien fidèle à Dieu, un bon témoignage, il aime le Seigneur, fidèle à l'Église, il va au travail et il se fait accidenter. Il n'était pas en temps, il se fait accidenter, transporté à l'hôpital. Mais dans la chambre où il était, il a rendu témoignage. Et de son témoignage, toute une famille s'est convertie, n'est-ce pas Odile? Ce sont ses parents. Toute la famille s'est convertie par l'épreuve de cet homme. Tu te souviens de son nom? Monsieur Méry. Voilà. Il n'avait rien fait de mal, mais il était à l'école de Dieu. D'ailleurs, il n'avait rien eu. Je crois que le lendemain, il sortait. Mais il a fallu cela pour permettre à cet homme... C'était ton papa ou ta maman qui était à l'hôpital? Ta grand-mère. Il a fallu cela pour que le témoignage parvienne à cette femme et que toute la famille sois sauvé. Ça valait pas la peine? Vous en pensez? Moi, je bénis le Seigneur quand je vous redis, hein? Je bénis le Seigneur, je lui rends gloire pour tant de choses. Nous sommes à l'école de Dieu. Et quand l'apôtre Paul va faire naufrage dans l'île de Malte, en plus, ils rabassent du bois parce qu'ils sont tout bouillés, ils allument un feu, il y a un serpent qui s'agrippe à sa main et qui le mord. Alors là, les gens superstitieux, waouh, c'est sa faute, c'est lui le plus grand criminel, même s'il est sauvé des eaux, ben il va mourir ensuite. Pas du tout, je n'inquiète pas, il secoue l'animal. Et puis, que se passe-t-il? Autant ils l'ont pris pour le pire des brigands, autant ils le prennent pour un demi-dieu. Alors, il leur apporte la parole, il leur prêche la parole. On lui amène tous les malades de l'île, et tous les malades sont guéris. Il reste un certain temps, ils sont logés, nourris, il peut apporter l'évangile, les amener plus loin. Dieu avait dit dans le navire, tu comparaîtras devant César, toi et tous ceux qui sont dans le navire avec toi. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, et il était à l'école de Dieu. Ça valait le détour. Bien sûr, peut-être qu'il y a eu des remontées quand la mer était déchaînée, mais ça valait la peine. Et souvent, nous, on voudrait éviter les épreuves. N'est-il pas vrai? On voudrait éviter les choses, et pourtant, Dieu est toujours là. Ne l'oublions jamais, nous sommes à l'école de Dieu. Troisième ancre. La troisième ancre nous montre que nous sommes sous la protection de Dieu. Dans le cas qui nous intéresse, à trois reprises, Dieu va montrer sa protection. La première, c'est lorsque les marins voulaient s'échapper. Ils ont vu que c'était perdu pour eux et ils voulaient s'échapper. Et quand l'apôtre Paul a dit au geôlier, s'ils partent, nous allons nous perdre, ça n'a pas eu lieu. Ils ont coupé les cordages qui maintenaient les chaloupes sont tombées à l'eau et il fallait qu'ils restent tous dans le navire. Je t'ai donné tous ceux qui sont dans le navire avec toi. Dieu avait tout sous son contrôle. La deuxième chose que je vois, deuxième protection de Dieu, les soldats étaient d'avis de tuer tous les prisonniers. Il faut dire que les prisonniers n'avaient pas une grande valeur. On va tous les descendre. Mais le geôlier, qui avait reconnu dans Paul un homme de Dieu, un homme avec qui Dieu était, a empêché que les soldats tuent les prisonniers à cause de Paul. Vous voyez, quand on marche avec Dieu, nous sommes une bénédiction même pour les autres. Même pour les autres, même s'ils ne sont pas convertis, nous sommes une bénédiction. Ils ont été sous la protection de Dieu. Et la troisième, eh bien la Bible nous dit, ils regagnèrent la terre, sains et saufs, tous. La mer était déchaînée. Je sais ce que c'est. J'ai traversé plusieurs fois, j'ai pris le bateau en tempête. Soit en Méditerranée, au Pacifique, pas si pacifique que cela d'ailleurs, hein, et autres, en Atlantique. Je sais ce que cela veut dire. Mais ce que je sais, c'est que tous sont arrivés. Peut-être y en avait-il qui ne savaient pas nager. Ils sont arrivés, se sont accrochés à des planches, puisque le navire était brisé. Ça aurait été mon cas, parce que moi, je ne sais pas nager. Hein. Mais une chose est certaine, je serais arrivé sain et sauf, parce que Dieu l'avait dit. Troisième ancre, nous sommes sous la protection de Dieu. Pas la protection des hommes, mais la protection de Dieu. Ça, c'est important de le réaliser et de pouvoir nous réjouir ensemble. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit ceci. Dans sa première épître, je vais vous la lire tout simplement, pas toute l'épître, hein, mais vous lire le passage en question. Il dira, à vous, au chapitre 1er, verset 5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu veut nous apprendre, au travers des épreuves, à avoir une telle foi que nous serons capables de le louer pour l'épreuve que nous traversons. Ça, c'est difficile. C'est pas dans ma nature. Je sais pas comment vous êtes, vous. Ouais, vous êtes différents. Mais c'est pas dans ma nature. Pas du tout. Vous savez ce que c'est, ça? Je viens de sortir d'un critérium. Une mine. Je veux pas savoir, hein. On ne sait pas si quelqu'un vous attend à la sortie. Vous savez ce que c'est qu'un diamant. Peut-être vous en avez chez vous, cachez-les bien. Eh bien, quelle est la différence entre le diamant et la mine? Ils sont de la même nature. C'est du carbone, ni plus ni moins. C'est du carbone, et le diamant est du carbone. C'est la même nature. Pourtant, il y en a un qui vaut plus cher que l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? La Bible nous dit, quand le carbone est soumis à la pression et une température précise, il se transforme en diamant. Ça. Soumis à la pression et soumis à une forte chaleur, il deviendrait du diamant. Il suffit d'une pression de 50 tonnes par centimètre carré et une température de plusieurs millions de degrés, et ça devient du diamant. Qu'est-ce que vous préférez? Être une mine, même si vous avez bonne mine, ou un diamant? Qu'est-ce que vous préférez? Oh, la question ne se pose même pas. Eh bien, le divin diamantaire qui a fait les mines de crayon pour les écoliers, les diamants pour les dames, voire même des hommes, pour devenir un diamant, il y aura de la pression, il y aura de l'épreuve. Et dans ces épreuves, il nous transforme. Ce qu'il veut, c'est voir notre foi, qui est plus précieuse que l'or, que les diamants que nous pouvons posséder. Notre foi est précieuse aux yeux de Dieu. Ce qui est précieux, c'est pas ce que nous possédons, ce que nous avons, c'est pas ce dont nous sommes revêtus, ce n'est même pas nos acquis, nos maisons, c'est pas ça qui est précieux aux yeux de Dieu. C'est vous et votre foi. C'est vous et votre louange. C'est vous et la présence de l'Esprit de Dieu en vous. C'est ça qui est précieux. Le reste, de toute façon, tout restera sur terre. Mais vous, vous serez enlevé. Que Dieu soit béni. Et par la foi, que de victoires seront remportées. C'est la troisième ancre. Nous sommes sous la garde, la protection de Dieu. Nous devons le réaliser. Et la quatrième ancre, eh bien, c'est l'apôtre Pierre qui nous dira « Dieu s'est délivré de l'épreuve ». L'apôtre Paul l'a dit également dans l'épître aux Corinthiens. Alors, il y a plusieurs manières d'être délivré de l'épreuve. Dieu enlève l'épreuve. Comme elle a été permise, il arrive un moment où c'est fini. Ce matin, je relisais dans la parole de Dieu... La Bible nous dit, le prophète Ésaïe qui le déclare d'ailleurs, il dit, quand l'ennemi surgit comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le détourne et le met en fuite. Et quand l'épreuve peut venir, suivant comment nous la considérons, suivant notre foi et notre adoration à Dieu qui tient nos vies dans ses mains, eh bien, il peut ôter l'épreuve rapidement. Parfois, l'épreuve elle dure. Et alors là, je pourrais vous citer, admettons, l'histoire de Sanchérib et d'Ézéchias. Ézéchias reçoit des nouvelles de Sanchérib, etc. Et Ézéchias va rentrer dans le temple, il va faire lire la lettre à Dieu, tu vois ce que sont les menaces de cet homme, etc. Eh bien, il n'a même pas eu à affronter ce roi en question. La Bible nous dit, par une mauvaise nouvelle que ce roi qui attaquait Ézéchias, ce roi a entendu cette mauvaise nouvelle, il est reparti et en rentrant chez lui, il a été tué. L'épreuve a été terminée. Il l'enlève, il la supprime. Parfois, il nous garde dans l'épreuve, jusqu'au bout de l'épreuve. Et je pense aux compagnons de Daniel. On en parle comme cela. Même les animatrices en parlent aux enfants. Hein, les trois compagnons dans la fournaise. C'est facile d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais d'y descendre. Être au milieu des flammes. J'ai connu un brave frère tahitien, toujours en vie d'ailleurs, il est bien plus jeune que moi, dans les fours à charbon. Bon, je ne veux pas détailler les fours à charbon, il y en a aussi à l'île de la Réunion, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, à un moment donné, ça chauffe à je ne sais plus combien de degrés, il est tombé. Il est tombé au milieu dans la cheminée, là, qui était, c'était un brasier. Et là, dès qu'il est tombé, il a pensé Jésus. Et il a senti comme quelqu'un qui le soulevait. Il a été simplement au passage brûlé à un bras. Il se demande comment il en est sorti. C'est impossible. Il y a eu des accidents semblables, mais ceux qui tombent meurent. Mais il a crié simplement Jésus. Il était là dans l'épreuve. Inutile de vous dire que le dimanche suivant au culte, il louait le Seigneur. Et ça se comprend. Oui, il peut nous garder dans l'épreuve jusqu'au bout. Il connaît la durée et il a gardé l'apôtre Paul jusqu'au bout. Et puis, la troisième épreuve, il peut nous ôter de l'épreuve, nous. Comme Lot a été sorti de Sodome, ou encore comme il peut nous reprendre. Parce que pour beaucoup, ils craignent la mort, mais en réalité la mort, c'est se réveiller dans le ciel. Je ne vais rien faire pour y aller plus vite, mais Dieu sait combien je serai heureux quand je serai avec lui. Je ne vis que pour cela. Il nous a préparé une place. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Votre nom n'a pas été effacé. Vous êtes là ce matin parce que vous aimez le Seigneur. Il peut nous ôter de l'épreuve. De toute façon, ce qui compte, c'est de savoir qu'au milieu de l'épreuve, nous avons des points d'ancrage. Il l'a permis, même si c'est ma faute. Il l'a permis, il va nous apprendre quelque chose, nous sommes à son école, nous sommes sous sa protection et sa garde. Et puis, il nous délivrera de l'épreuve. Des fois, c'est des épreuves physiques, des fois, c'est d'autres épreuves. Je pense, admettons, à ce jeune prédicateur qui devait quitter l'église de Perpignan et était muté ailleurs. Et avant de partir, une sœur lui a dit « Vous allez dans telle ville, là-bas, j'ai une parente qui est inconvertie, est-ce que vous pourriez aller la voir ?» Et le prédicateur lui a dit « Bien sûr, je pourrais aller la voir. » Mais il a fait son déménagement sans avoir l'adresse et puis sans avoir eu l'occasion de reparler à la chrétienne. Le prédicateur prend ses fonctions dans la ville de Villeneuve-sur-Lot, que c'est pas très loin d'ailleurs. Et puis, un jour, une chrétienne que je connais bien, c'est la sœur de ma belle-mère. Et les deux sœurs sont pareilles. Hein. Pour les faire taire, vous pouvez toujours repasser. Elles parlent de Dieu, rien ne les arrêtera. Le président de la République peut passer, il aura droit à son témoignage. Et elles sont de la même nature, de la même trempe. Elle a une forte fièvre. Le médecin la consulte, etc. Ils n'arrivent pas à déceler pourquoi la fièvre dure, perdure pendant des jours et des jours. Et une forte fièvre, hospitalisée pour faire des bilans. Elle est dans une chambre à deux lits. et comme on ne peut pas la faire taire, elle rend témoignage de sa foi à sa voisine. Et le prédicateur ayant appris que cette brave chrétienne de Villeneuve-sur-Lot était hospitalisée, il va la visiter. Et alors, la chrétienne dit, « Frère, est-ce que vous pourriez également parler à cette dame ? Je lui ai déjà rendu témoignage. Elle aimerait écouter, elle aimerait en savoir plus. » Or, il s'avérait que cette femme, c'était la parente de celle de Perpignan. Et la tante, parce que c'est notre tante, hein, Villeneuve-sur-Lot, notre tante, le lendemain, elle sortait, plus rien, plus de fièvre, plus rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ressemble à l'histoire de la grand-mère d'Odile. Passant par l'épreuve, dites-moi, est-ce que vous aimez, et ça m'est arrivé plus d'une fois, est-ce que vous aimez tomber en panne de voiture, les frères ? Vu la réaction, même si vous vous dites rien, vos femmes à côté, elles vont dire, attendez, on va vous dire ce qu'est... Bon, comment ils sont contents, entre guillemets. Je me souviens de ce frère, c'était un samedi. C'est un homme qui était ingénieur, qui enseignait dans une école d'ingénieurs, et il devait aller tenir une réunion auprès d'étudiants. Et en même temps, une réunion, il était chrétien, où il témoignait. Et puis, en voiture, ils étaient quatre dans la voiture, en voiture, tout d'un coup, Mercedes, enfin, peu importe la marque, mais la Mercedes en panne. Alors, il s'arrête à une première station, et puis il demande, il dit, non, on peut pas, mais si vous allez doucement, si vous pouvez rouler doucement, il y a un garage Mercedes qui est pas très loin. Alors, délicatement, doucement, reprennent la voiture, et puis il arrive au garage Mercedes, qui, un samedi, était fermé. Alors, il dit, voilà ce qui m'arrive. Oui, mais moi, j'y connais rien en mécanique, et puis il n'y a aucun garagiste le samedi, tout est fermé. Le frère remonte dans sa voiture, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais alléluia quand même, béni sois-tu. Le gars de la station revient. Du garage, parce que c'était station et garage. Il aurait fait, attendez, ouvrez votre capot. Il ouvre le capot, il regarde, c'était un fil qui était débranché. Pas grand-chose. Il l'a remis, et quand le frère a voulu le payer, il a dit non. Il était tellement content d'avoir trouvé la panne. Il a dit non, c'est pas la peine. Et puis ils ont pu poursuivre leur trajet. Et quand il a fini sa réunion, auprès des ingénieurs, l'Esprit de Dieu lui a dit, dit, je t'ai permis que quelqu'un te dépanne. Tu m'as remercié. Est-ce que tu pourrais pas écrire à la maison mère Mercedes à Stuttgart, en Allemagne, pour les remercier d'avoir des gens si gentils? Fais une lettre. C'est le genre de lettre que les gens ne reçoivent pas beaucoup, ça, hein? Et il écrit à la maison mère de Stuttgart, mère Mercedes, et il dit, voilà ce qui m'est arrivé, il raconte tout, et dit, je suis chrétien, je tenais à remercier non seulement les employés que vous avez, mais à vous le dire, et remercier toute la firme. Quelques semaines plus tard, il reçoit une lettre, sur laquelle la secrétaire générale dit, monsieur, c'est moi qui ai réceptionné votre lettre. C'est moi qui réponds. Merci parce que des lettres comme cela, vous avez compris, on n'en reçoit pas tous les jours. Mais elle dit, avant que cela ne vous arrive, je priais, je me disais, mais s'il y a un Dieu qui existe, est-ce qu'il pourrait me mettre devant un chrétien qui est vraiment un chrétien? Et quand elle a reçu la lettre, elle a répondu, je sais que vous êtes un vrai chrétien. Qu'est-ce qui a permis cela? L'épreuve de la panne. Je pourrais vous donner des détails personnellement que j'ai vécu de la même manière au travers de pannes. Ah, je m'en rappelle. Faisions un camp, et puis dans le Tarn, On était plusieurs, nous étions partis en voiture et puis on revenait. J'avais une vieille voiture. Et voilà que je fermais la file. Et puis tout d'un coup, la voiture, elle se bloque sur la route. J'ai juste le temps de me rabattre sur le bas-côté, sur l'herbe. Et puis la roue fumée s'étira. La pédale de frein, je pouvais plus appuyer, elle était bloquée, etc. Alors on descend, les jeunes, on était neuf dans la voiture, c'était un véhicule neuf places. Je descends, et puis les jeunes, ils sont pleins de feu, pleins de force, pleins de foi. Et puis on se met à chanter des cantiques. Et on avait au milieu de nous un jeune qui n'était pas chrétien, mais qui était venu à notre camp. Je faisais quelques études, alors pour lui, Dieu n'existait pas. Puis quand il a vu que tout le groupe de jeunes chantait, puis on s'était mis à louer Dieu, louer, un moment de louange, il m'a dit, je peux aller dans votre voiture? J'ai dit oui, pour écouter la radio, les chants. Vas-y. Puis au bout d'un moment, on a eu un bon moment ensemble. Et avec les jeunes, nous avons donc chanté, loué. Puis j'ai dit, maintenant, c'est bon, on va reprendre la route. Les autres avaient filé et ne s'étaient pas aperçus de notre absence. Et quand ce jeune m'a regardé, il m'avait arrivé, il a dit, ils sont fous, ces chrétiens, il est fou, ce pasteur. J'arrive dans la voiture, et avant de me voir, lui-même, il a appuyé sur la pédale de frein. Aussi dur que ça. Pas du tout de jeu. J'arrive, je dis aux jeunes, allez, montez dans la voiture. Je me souviens encore des jeunes qui y avaient, là. Ils montaient dans la voiture, je mets en route, et je pars, plus rien. Le jeune était là, il m'a regardé, il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, on a loué le Seigneur. On arrive à bon port, et là, on a eu la réunion le soir, après le repas. Et alors, les uns donnaient un témoignage, les autres une expérience, etc. Puis ils se sont levés tous dans la voiture, et ils ont dit au jeune, incrédule, il dit, tu vois que Dieu t'a parlé à toi spécialement aujourd'hui. Alors, la fin de l'histoire, j'ai raconté ça à mon garagiste. Il m'a dit ça, c'est la membrane du cerveau frein. Et quand ça arrive, il faut changer le cerveau frein. C'est fini, la membrane est percée. Nous avons fait 150 000 km en plus avec cette voiture, sans jamais toucher au cerveau frein. Jamais. Et ils pourraient vous le dire, les jeunes, qui ont vieilli depuis. Seigneur, c'est pas facile de louer le Seigneur quand ça va pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Même au travail. Et je ne juge personne, parce que j'y passe moi aussi. La même chose. Louer le Seigneur quand on a un rendez-vous, c'est programmé, on est déjà en retard, et tout est fait pour que nous soyons en retard. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que c'est facile? Et pourtant, c'est là que nous remportons les victoires. C'est là que Dieu peut permettre que nous soyons un bon témoignage pour les uns et les autres. L'épreuve, tout le monde y passera. Mais est-ce que je vais me poser la question, pourquoi, en un mot, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? J'ai pas péché, j'ai pas menti, j'ai pas volé, j'ai pas fait telle et telle chose. Ou alors je me posais la question, pourquoi en deux mots? Quel est ton but, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends après moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est cela, l'épreuve. En tout cas, comme Dieu l'avait dit à Paul, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Vous servez le même Dieu. Peut-être que vous n'avez pas vu un ange, mais vous avez le témoignage du Saint-Esprit en vous. Vous avez le témoignage du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs, nos sentiments, à notre esprit, qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu, et qui vous dira, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, j'ai quelque chose de prévu. J'ai eu plusieurs fois des difficultés, je me souviens, je revenais d'une convention à Gap. À l'époque, j'étais à Angoulême. J'ai traversé toute la France par le bas. Je me suis arrêté au repas pour prendre un repas chez la belle-mère. Et puis, j'ai roulé la nuit, toute la journée et la nuit. Et à un moment donné, peut-être à 100 km d'Angoulême, j'étais en côte. J'éprouve le besoin de m'arrêter, 2 minutes, je m'arrête. Impossible de redémarrer. Et le lendemain, je devais prendre le train à 11h du matin, c'était en pleine nuit, le train, pour aller faire une mission à Paris. Or, j'étais mal parti. J'ai vu une voiture passer, j'ai essayé de l'arrêter, le gars il a accéléré. En pleine nuit, c'est pas évident. J'avais certes une corde dans mon coffre, c'était une vieille voiture, j'avais tout prévu, hein. Même la corde pour me faire remorquer. Et puis, voyant que ça n'arrivait pas, j'ai dit, Seigneur, c'était... En plus, j'avais pris un raccourci, j'ai pas pris la nationale. Je connaissais les raccourcis. Et là, j'ai incliné le dossier, j'ai dit, Seigneur, tu connais tout, demain, il faut que je prenne le train, vu l'heure qu'il est, je ne pourrai pas. Je dois faire une mission, être entre tes mains. Seigneur, tu sais toute chose. J'ai incliné le dossier, puis je me suis reposé 10 minutes, un quart d'heure, mais bien reposé. Et tout d'un coup, je vois des phares d'une voiture qui arrive. Je suis même pas sorti, je l'ai même pas arrêté. Il s'est arrêté à côté de moi. Fait, vous avez un problème, monsieur? Oui, je suis en panne. Ah! J'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me remorquer avec la corde que j'ai jusqu'en haut de la côte? Et puis après, ben, vous partirez. Moi, je me laisserai descendre. Ça ira. On accroche la corde à sa voiture, à la mienne. Il me tire jusqu'en haut de la côte. Et puis là, je détache. Je le remercie. Il s'en va. Et moi, je me laisse descendre. La voiture a fonctionné. Je suis arrivé suffisamment à l'heure pour prendre le train à 11h. Et je me souviens, pendant la mission, j'avais, je me rappellerai encore, une jeune fille africaine qui était là. Et qui était venu à une de nos premières réunions, qui revenait, et me dit, mon pasteur, c'est comme ça qu'elle m'appelait, mon pasteur, aujourd'hui, j'ai amené ma mère, c'est la première fois qu'elle vient. Et puis Dieu l'a sauvée. Dieu sait toute chose. Il est évident que si moi j'avais rouspété, murmuré, comme tout bon français, comme tout conducteur qui a des contrariétés, je ne pense pas que j'aurais eu la possibilité d'apprendre le train à l'heure, d'arriver et d'entendre cela. Mais j'étais tellement heureux. Seigneur, tout vient de toi. Tout. C'est vrai que nous aurons des épreuves. Comme disait Jacques, regardez comme un sujet de joie complète. Parfaite. Les diverses épreuves. C'est pas de notre nature, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pourtant, c'est à cela que nous sommes appelés. Parce qu'il nous apprend la patience. Ah, nous, la patience. Pas évident, hein? Nous ne sommes pas les gens les plus patients. Pourtant, la Bible nous dit qu'il faut apprendre à être patient. Parce qu'il y a des prières que Dieu a déjà entendues et qu'il a exaucées. Mais entre le temps où sa manifestation se fait, il nous faut garder la patience. Tout comme Daniel, le prophète, qui jeûnait, priait. Et puis l'ange vient le voir, lui dit, tu sais, dès le premier jour, ta prière a été entendue. Mais il est venu que 3 semaines après. Seulement, si entre temps, nous doutons, nous murmurons, nous en voulons à Dieu. Si entre-temps, nous le laissons tomber, il ne peut pas agir. Restons dans la louange et dans la patience. Paul pouvait dire, le Dieu à qui j'appartiens. Et cette phrase, nous pouvons tous la dire. Nous appartenons à Dieu. Avant d'appartenir à vos parents, avant d'appartenir à qui que ce soit, nous appartenons à Dieu. Avant d'appartenir à votre femme, à votre mari, vous appartenez à Dieu. C'est formidable ça. J'appartiens à mon Sauveur. Il y avait un chant qu'on chantait autrefois. Quelle joie, j'appartiens à mon Sauveur. Hein? Nous appartenons à Dieu. Et ce Dieu en question, il a ses yeux fixés sur vous. Il vous aime. Il sait que vous traversez l'épreuve. Et c'est pas là qu'il va vous abandonner. C'est pas au moment où quelqu'un est en difficulté qu'on va l'abandonner. Il serait pire qu'un humain. Bien au contraire, il est très attentif, très attentionné. Il nous aime. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être ce matin, y a-t-il quelqu'un ou quelques-uns qui passent par des épreuves et qui voient l'épreuve se prolonger. J'aimerais vous dire au moins deux choses. Louez Dieu et faites confiance à Dieu. La deuxième, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, qu'il vous donne une parole comme il l'a donnée à Paul. Au travers de l'ange, qu'il vous donne une parole. Et peut-être que dans cette parole, ça sera un ordre à donner à l'adversaire, un ordre à donner à l'ennemi. Au nom de Jésus, toi, tu arrêtes. Ou de dire, Seigneur, tu vas l'ôter cette épreuve, tu vas l'enlever. En tout cas, il peut vous délivrer de cette épreuve, vous risquez d'en avoir une autre plus tard. C'est pas pour vous décourager, mais chaque fois qu'il y a une épreuve, nous grandissons, dit l'épître de Pierre et Jacques identique. Est-ce que nous voulons grandir dans la foi, avoir connaissance, et chacune de nos expériences, elles serviront aux autres. Notre foi grandissant, on pourra aider ceux qui sont faibles dans la foi. Seigneur, je te loue. Quel Dieu puissant, quel Dieu, nous l'avons chanté dans plusieurs cantiques tout à l'heure, et il a parlé des difficultés, notre frère également, hein. Je ne savais pas sur quoi j'allais parler. Et je crois qu'il est bon de nous souvenir, nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu qui est un véritable Père. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui est au-dessus de tout. Un Dieu qui est avec nous. Un Dieu qui est pour nous, un Dieu qui a mis son esprit en nous, un Dieu qui a vaincu, que dont son nom soit béni. Il aime son Église et il vous aime. Si quelqu'un est dans l'épreuve, nous allons prier, ou pas individuellement, je ne vais pas le faire, mais nous allons prier afin que la foi nous saisisse par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse de foi et qu'avec l'autorité du nom de Jésus, puissions dire à l'épreuve, c'est assez, arrête maintenant. Tout comme si un fleuve, comme un ennemi surgit, Dieu le mettra en fuite et l'arrêtera. Pouvons-nous nous incliner quelques instants, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Quelle bénédiction de savoir que notre Sauveur a vaincu l'ennemi. Celui qui peut essayer de nous éprouver pour nous faire perdre la foi. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous est là pour nous permettre d'augmenter dans la foi. L'Esprit de Dieu est là pour se révéler, pour nous parler. Et maintenant, c'est sous la conduite de l'Esprit que nous voulons nous adresser à toi, Seigneur. Merci, car rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Personne. Y a-t-il quelques personnes qui passent par l'épreuve ce matin? Peuvent-elles se lever à leur place, tout simplement? Et nous allons prier avec elles. Elles vont louer le Seigneur, elles aussi. Peu importe l'épreuve, moi elles ne me regardent pas, mais je sais que Dieu est au courant de l'épreuve.